Manaono, salam, bienvenue sur Malabar. Je suis Simbach, je suis l'hôte du podcast Malabar. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la vanille de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Montage et réalisation de chaque épisode, Maillé, Rami Prod, je vous mets tous les liens dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Sinde et bienvenue sur Malabar, comment vas-tu ?
Je vais très bien, merci.
Alors, nous, on a un gros décalage horaire toutes les deux parce que tu es du côté des États-Unis. Avant de parler de ta vie, parce que tu as fait énormément de choses dans ta vie, tu portes beaucoup de projets passionnants. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, c'est-à-dire nous donner ton nom, ton prénom, ce que tu fais dans la vie et où est-ce que tu habites aujourd'hui ?
Alors, je m'appelle Sinde Selouf-Nirine. Je suis mariée, j'ai 4 enfants. J'habite actuellement aux États-Unis, à Washington, D.C., depuis 2019, et je m'occupe des contrats avec le gouvernement.
Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire un peu Washington, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'y aller où est-ce que c'est situé d'abord aux États-Unis à quoi ressemble la ville et tes premières impressions, en tout cas pour les premières années où tu as vécu, comment tu t'y sens ?
Je me sens bien, c'est tout propre. Quand on est arrivé aux États-Unis, on a d'abord habité 2 ans à New York. Et donc, après avoir été à New York pendant 2 ans, il faut admettre que Washington, c'est plus calme. C'est d'ailleurs une ville administrative. C'est très joli, c'est très paisible. Et j'encourage les gens à vraiment prendre le temps de visiter cette ville s'ils sont de passage. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à voir. Mais tu sais, hein, maintenant, on peut tout voir sur Internet.
C'est vrai, tu as raison. Mais ça reste quand même du virtuel. Et ce n'est pas pareil que quand tu y es. Parce que je trouve qu'en Amérique du Nord, tu as quand même ce petit... je ne sais pas, ça t'a une petite vibe que tu ne retrouves pas derrière les réseaux sociaux. Ou derrière les vidéos ou quoi que ce soit que tu retrouves que quand tu y es physiquement.
C'est vrai.
Mais après, je suis d'accord avec toi qu'avec maintenant tout ce qui existe sur Internet, on peut forcément y aller un peu.
Mais c'est une jolie ville.
D'accord, super. Donc, tu nous disais que tu habites aujourd'hui à Washington. Avant, tu as vécu à New York. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours parce que toi, tu es née, tu as grandi à Mada. Est-ce que tu es restée à Mada? Est-ce que tu as beaucoup voyagé? Vraiment, la Sinde, avant de se marier, comment elle a grandi?
J'étais une fille normale, comme toutes les gens de classe moyenne à Madagascar. Je suis née à Madagascar, j'ai grandi à Madagascar, plutôt dans une famille matriarcale parce que j'ai été élevée par ma mère, ma grand-mère et mes 2 tantes. Donc c'était plutôt cette famille matriarcale-là. C'est dans cette famille-là que j'ai vécu. J'ai fait toute ma scolarité à Madagascar, dans une école catholique. J'ai fait aussi mes études supérieures dans une université catholique. Et voilà, je n'avais pas tellement d'histoire, sauf que pour ce que j'aimais faire, c'est vraiment chanter. Et donc, je côtoyais un peu ce milieu-là de la musique et avec les artistes et tout. Voilà, c'était vraiment un milieu que j'ai beaucoup aimé avant de me marier.
D'accord, voilà. Très bien. Donc, ta première passion, c'était le chant. Et tu as dit que tu as grandi dans une famille matriarcale, en tout cas dans un environnement matriarcal. Ça, c'est très important pour, je pense, la suite des événements. En tout cas, le tournant que va prendre ta vie. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion pour le rallye ? Parce que la première chose, quand on tape ton nom et ton prénom sur Google, les premières choses qui sortent, c'est motorsport, rallye, course, voilà, tout cet environnement. Donc, j'imagine que c'est deux choses indissociables. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton arrivée dans ce sport et qu'est-ce qui a fait que tu as basculé dans ce milieu ?
Eh bien, ça, c'était vraiment, et sans même un jeu de mots, c'était par accident. Parce que quand je me suis mariée avec un rallyman. Donc, mon mari était déjà dans ce monde du rallye quand je l'ai connu. Et voilà, c'est lui qui m'a entraînée dedans, sans pour autant au début être vraiment intéressée par le monde du rallye, hein. J'avais, comme j'ai grandi dans un milieu tout à fait différent, j'étais pas tellement en relation avec tout ce qui est sport mécanique, tout ce qui est voiture. Je connaissais pas ce monde-là, donc j'étais très novice, je dirais. Et ça ne m'intéressait pas particulièrement. Mon mari, c'était vraiment sa passion. C'est d'ailleurs une passion familiale pour eux. Donc, je respectais cette passion-là. Je le laissais faire le rallye. Voilà, et j'ai eu le temps d'avoir mes 4 enfants. Quand en 2004, après avoir donné naissance à mon dernier fils, il voulait faire un rallye avec sa propre voiture. Il commençait à préparer une vieille Peugeot 504. Ça lui a pris une année à la préparer. Et quand la voiture était enfin prête, il était en quête de copilote parce qu'il ne pouvait pas faire la compétition tout seul. Il fallait un copilote. Mais les gens boudaient un peu la 504 parce que c'était déjà une vieille voiture en 2004. Et donc, il était un peu déçu. Il était rentré tout abattu. Il m'a dit, bon, il n'y aura pas de rallye pour moi parce que personne ne veut me copiloter sur la 504. Et c'est là que mon orgueil est sorti. Je lui ai dit, OK, je le ferai. Apprends-moi et je le ferai. Et voilà, cette même année, en 2004, au mois de septembre, on a commencé nos premières compétitions et on n'a plus arrêté.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire quand tu dis qu'il a préparé sa 504? Ça veut dire quoi concrètement? Moi,
Alors,
honnêtement, j'y connais rien à
OK.
l'automobile. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste?
OK. Alors, pour faire le rallye, on a le choix, soit d'acheter une voiture qui est déjà préparée pour faire les compétitions automobiles, soit tu as une voiture normale, une voiture de Monsieur Tout-le-Monde, que tu prépares pour devenir une voiture de rallye. Alors, pour être acceptée en tant que voiture de rallye, il y a des minimums de sécurité à respecter et qui vont vérifier après. Par exemple, il te faut l'arceau pour éviter que si tu fais un tonneau ou un accident, que tu ne sois pas prise au piège dans le cockpit de la voiture. Donc, il faut l'arceau de sécurité. Il faut des ceintures de sécurité, au moins 4 points ou 6 points. Je ne me souviens plus maintenant parce que le règlement, il a évolué. Il te faut des sièges baquets, mais pas les voitures normales. Enfin, ça, c'est les minimums. Il te faut des extincteurs. Il te faut des Il te faut enlever tout ce qui est partie mobile dans l'habitacle. Donc tout ça, tu prépares. À part cela, il y a des gens qui font un boost dans leur moteur, dans les suspensions de la voiture. Tu as des pneus spécial terre parce que nos rallyes à Madagascar se font sur des surfaces en terre. Et donc voilà, tout ça, ça demande toute une préparation et c'est ce qu'il a fait avec sa 504.
D'accord. Donc toi, tu donnes naissance à ton dernier en février de l'année. Vous, vous devez vous lancer du coup dans cette course tous les deux pour septembre. Du coup, si je compte bien, ça vous laisse 7 mois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces 7 mois de préparation, en plus en postpartum, de cette aventure folle dans laquelle ton mari t'a emmené avec toi?
Alors, on a commencé par apprendre le règlement. Voilà. Et je pense que c'est la partie la plus importante, surtout pour la tournure à laquelle mon histoire a pris par la suite. Mais on a commencé par lire le règlement parce que pourquoi on va faire, comment est-ce qu'on va participer à une compétition sans connaître le règlement? Donc on a commencé, le règlement est devenu mon livre de chevet. Donc, je commençais à lire tous ces articles, toutes ces choses qu'il faut pas faire. Et puis après, il m'a appris la mécanique, au moins les bases, pour que je puisse l'aider en cas de panne ou en cas de problème pendant les compétitions, parce qu'on ne peut pas recevoir de l'aide extérieure pendant les compétitions. Donc, on doit se débrouiller nous-mêmes. Et puis, on a appris à changer les roues en équipe. Et c'est la partie que j'ai aimée le plus parce que c'est comme un ballet, en fait. On synchronise nos gestes je pense que le temps le plus rapide qu'on a fait pour changer le pneu, c'est 1 minute, 1 minute 20, je pense. Donc,
Wow.
ça, c'est vraiment, il faut s'entraîner, il faut refaire les gestes, apprendre les gestes, et voilà, on se parle plus quand on doit changer les roues. Et donc, on a fait tout cela, on a rodé tout cela. Il m'a appris à prendre les notes, il m'a appris à lire les notes parce que c'est le travail du copilote. Il m'a appris à gérer l'équipe d'assistance. Donc, mais c'est tout un travail et ça a commencé à me fasciner. Ça m'a pris quelques mois pour apprendre tout ça, mais je me suis dit, c'est vraiment un travail à part entière, le rôle de copilote, et ça me passionnait. Voilà.
D'accord, mais c'est génial parce que du coup, tu as été prise aussi dans la passion, du coup. Tu ne l'as pas fait en fait par devoir, tu l'as fait aussi par plaisir.
Exactement.
Et donc, du coup, on arrive en septembre, c'est la grande course. Tu es dans quel état d'esprit avant de lancer la course, avant de débuter la course?
Alors, je ne savais vraiment pas qu'est-ce que j'avais dans la tête. Honnêtement, je n'avais pas le trac parce que j'étais dans la voiture avec mon mari. Donc, ce n'était pas une peur, c'était vraiment de l'excitation, je dirais, d'aller vers cet inconnu parce que je n'avais aucune idée de commencer en vrai, hein. Il m'a appris, on s'est entraîné, on a simulé des choses, mais c'était vraiment une grande première pour moi. Et puis, il a fallu aussi parler aux journalistes. Les gens s'intéressaient beaucoup à nous parce qu'on était un couple dans une vieille voiture. Enfin, la voiture était jaune, donc ça attirait les regards. Donc, il fallait gérer tout ça. Et voilà, je pense que j'avais vraiment cette excitation jusqu'au premier top. Voilà.
D'accord, super. Et donc la course se passe et c'est le début d'une grande histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, du coup, vous avez remporté plein de prix, vous avez continué ensemble pendant très longtemps. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques lignes la suite des événements avant que tu aies ce poste en fait de coordinatrice nationale des Women in Motorsport? Nous raconter un peu ce parcours ensemble de couple dans le rallye.
Alors c'est devenu un sport familial. Nos enfants ont littéralement grandi dans le rallye parce que on était toujours en train de faire le championnat, et le championnat de Madagascar comprenait 7 à 8 rallyes par an. Donc on emmenait les enfants avec leurs biberons dans les parcs d'assistance et les mécaniciens s'en occupaient. Et quand j'arrive, je m'assurais qu'ils allaient aussi bien, mais ils ont grandi dans ce monde du rallye-là. On a fait quelques années avant que je sois élue secrétaire générale de la Fédération de l'automobile à Madagascar. Donc, à partir du moment où j'ai eu ce poste, j'ai été en contact avec la Fédération internationale. On a commencé à être en relation. J'ai participé à des réunions au niveau international, surtout en Afrique, parce que le championnat de Madagascar faisait partie du championnat d'Afrique en ce moment-là. Et voilà, c'est comme ça que, par surprise, la présidente du Women in Motorsport International, qui n'est autre que Madame Michèle Mouton, m'a nommée en 2013 coordinatrice nationale des Women in Motorsport. Donc
D'accord.
voilà, ça a pris une tournure, je dirais, plus administrative pour moi, parce que je prenais vraiment ce rôle à cœur. Je me souviens, je dormais pas parce que je pensais à alors. Pourquoi elle m'a nommée et qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on attend de moi en fait? Et donc j'étais vraiment en train de penser à des projets, comment est-ce que je pouvais concrétiser tout cela, et j'ai décidé de commencer à Madagascar. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Et est-ce que tu étais, parce que du coup, comme tu le disais, tu as été plus dans l'administratif et moins sur le terrain. Est-ce que tu étais triste un peu de quitter le terrain ou est-ce que pour toi, c'était vraiment un nouveau chapitre à débuter? Comment tu le vivais un peu ce changement de cap en...
Non, j'ai été aussi très active dans mon propre club de rallye, parce que on doit être membre d'un club de rallye pour avoir une licence. Et j'étais très active aussi au sein de mon club. Donc, non, non, je n'avais pas tellement. Peut-être que c'est ce côté. C'est pas une passion innée pour moi. C'est je l'ai fait parce que mon mari avait besoin d'un copilote et après j'ai aimé tout ce qui était relié au sport mécanique. Et donc je me sentais pas tellement exclue des compétitions parce que j'étais toujours là. J'étais en train d'expliquer les règlements aux gens. J'étais aussi directeur de course et commissaire sportif. Et d'ailleurs j'ai été la première femme africaine à être commissaire sportif pour les championnats d'Afrique des rallyes. Donc voilà, je peux dire que j'avais assez à faire. Donc je n'avais pas tellement, je pensais pas tellement que enfin, les compétitions ne me manquaient pas. Voilà.
D'accord. Donc, tu as eu ce poste de coordinatrice pendant 3 ans, c'est ça?
Oui, ça, à peu près 3 ans où j'ai essayé de promouvoir la participation des femmes, de promouvoir les jeunes au sport mécanique. Et voilà, on a mis en place quelques projets financés par la Fédération internationale. J'ai pu aussi participer à la promotion des femmes dans quelques pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, Zambie, le Kenya. Voilà, c'est le Rwanda. Donc j'avais vraiment une relation avec toutes ces fédérations-là et ça a commencé vraiment à faire du bruit et les femmes étaient de plus en plus intéressées au monde du sport automobile parce que je leur ai expliqué que participer au sport mécanique, c'est pas seulement être copilote ou être pilote, c'est être mécanicien. C'est être ingénieur mécanique, c'est être journaliste, c'est être team manager, c'est être voilà, c'est être juste une femme qui soutient son mari, qui est juste active. Et donc on a réussi à rameuter toutes ces personnes-là et leur donner et vraiment donner une valeur à ce qu'ils font, à ce qu'elles font. Parce qu'en fait, même si elles ne sont pas reconnues, ces femmes-là, en tant que mères, en tant que femmes, elles étaient tout le temps là. Mais elles n'ont pas été tellement reconnues, voilà. Et
Ouais.
donc on leur a donné leur place en disant non, vous êtes partie intégrante du sport mécanique parce que le sport a besoin de gens comme vous. Et voilà.
D'accord. Donc tu leur as donné un rôle plus important. Et est-ce que tu avais le
Exactement.
sentiment, parce que toi, tu es entrée dans le milieu du coup en 2004, ça tu l'as fait en 2013, est-ce que toi, tu avais l'impression en 2004, quand tu es entrée, que les femmes, il y en avait peu, qu'elles étaient peu visibles. Est-ce que tu as vu est-ce que tu l'as vécu, toi, cette situation-là?
Alors, même avant que je ne sois copilote de mon mari, il y avait des femmes qui participaient déjà au rallye à Madagascar. Il y avait vraiment, depuis longtemps, il y avait une femme, deux femmes, des fois, il y avait plusieurs femmes. Il y avait une femme très, très forte qui était pilote à Madagascar, très connue. Donc, la participation des femmes était là. Mais c'était vraiment de leur donner cette place-là, cette reconnaissance voilà que c'était important qu'il faut qu'il y ait plus de participation des femmes au sport. Je pense que c'est ça qui manquait, c'est vraiment voilà ce petit boost-là. C'est la communication qui manquait, je dirais.
D'accord, très bien. Et donc, en 2013, donc, tu as ce poste, tu y es pendant 3 ans, et en 2016, qu'est-ce qui se passe?
Alors, pendant 3 ans, j'essaie tant bien que mal, je dirais, de faire de mon mieux avec de faire ce que je peux avec les ressources qu'on a pu avoir. Et puis, ça a commencé à être un peu difficile parce que je dirais qu'à Madagascar, en ce temps-là, c'était pas encore très bien. Enfin, le leadership masculin n'était pas encore très bien accueilli. Et j'espère que maintenant, c'est plus le cas parce que je vois de plus en plus de femmes dans tous les domaines qui brillent et qui font vraiment leur mieux. Mais je dirais qu'en 2013, en tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu. C'était très difficile d'être un leader.
En tant que femme.
Surtout que, voilà, en tant que femme, surtout que je suis dans un environnement dominé par les hommes. Voilà, donc ça a commencé à être un peu difficile, ça a commencé, voilà, c'était plus dur que je le pensais, et puis on m'a donné des fils à retordre et tout, donc je me suis dit, bon, c'est pas mon travail, je le fais par passion, et puis c'est très bien aussi d'avoir de l'alternance, donc j'ai cédé la place, voilà. Et quand j'ai et puis je me suis dit je vais créer voilà une autre entité qui fait les mêmes choses, qui ont les mêmes visions, mais qui s'élargissent au-delà du sport mécanique. Et voilà comment WeMove Madagascar est né en 2016.
D'accord. Donc WeMove Madagascar, c'est une entité que toi seule tu as fondée suite à ton expérience dans un milieu masculin.
Exactement.
Et quels ont été un peu les retours? Parce que forcément, dans ton entourage proche, moins proche, tu vas expliquer ce que c'est WeMove Madagascar et ce que tu cherches à faire. Quels ont été le retour que tu as eu?
Bah, c'était je dirais, c'était un peu mix, hein, parce qu'il y a une partie des personnes qui me soutenaient, qui me disaient « Oh, mais t'es très forte, t'es courageuse, c'est très bien ce que tu fais, tu continues. » Et puis, j'ai gardé tous les contacts, j'ai gardé voilà les projets qui étaient en cours, ben, je les continuais. Mais il y avait une bonne partie des personnes qui étaient assez proches de moi qui m'ont dit « T'es folle, t'es juste folle parce que pendant 3 ans, tu as… » C'était le maximum de stress qu'une personne pouvait endurer. Mais voilà, tu continues toujours. Mais donc, voilà, c'est vraiment les projets commençaient à me tenir à cœur. Et voilà, je continuais, tant bien que mal.
C'est vrai qu'on voit que tu as cette énergie, en fait, pour te lancer dans des projets. Après, c'est suite aussi aux expériences de vie, hein. C'est comme ça que des projets naissent. Du coup, tu as un nouvel élan, en fait, avec WeMove Madagascar. Donc, ton objectif, c'est vraiment de promouvoir, en fait, le leadership féminin, en tout cas, de leur donner plus d'importance, plus de valeur. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait sur les premiers mois, premières années? Quels ont été les grands challenges ou les grands projets que tu as portés?
Alors, la transition n'a pas été tellement facile, hein, parce que pendant des années, j'étais tout le temps dans le monde du sport mécanique. Donc, on a essayé de faire un manche du championnat de Madagascar des rallyes. Ça, c'est la première chose qu'on a faite. Donc, c'était vraiment un grand challenge, parce que dans l'histoire du rallye de Madagascar, aucune femme n'a organisé un manche du championnat de Madagascar des rallyes. Mais je dirais que j'ai été entourée de bonnes personnes, j'ai été suivie par les sponsors, et on a pu faire ce manche du championnat-là, qui comptait pour le championnat de Madagascar des rallyes. Donc, on a commencé par ça. Et quand ce projet-là s'est concrétisé, je me suis dit, c'est bon, on peut faire quelque chose. Parce que ça, c'était vraiment le suspense pour moi, parce que j'étais vraiment dans cette transition. J'étais plus tout à fait rattachée à la fédération malgache du sport auto, mais j'étais pas tellement complètement sortie non plus. Et voilà, donc j'étais encore au milieu, j'avais encore ma licence de concurrent. Voilà, alors j'ai essayé de faire ce projet-là, et quand c'est concrétisé, je me suis dit, c'est bon, on peut continuer. Et voilà, on a commencé par ça, et de fil en aiguille, on a fait d'autres projets jusqu'à ce que je quitte Madagascar.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du type de projet autre que dans la course, ou des domaines dans lesquels tu as participé avec WeMove Madagascar, pour qu'on ait un peu plus de visibilité?
Ok, donc on a vraiment élargi notre champ d'action. On a pas mis de barrière du tout. J'ai été entourée de personnes qui viennent de toutes les classes sociales et de Madagascar. Donc on a fait juste en un trait, je dis, on a travaillé avec des orphelinats. On a travaillé, j'ai fait des storytelling pour partager mon expérience et peut-être aider les gens. J'en ai fait 3 sessions. On a fait une compétition de vélo et c'était un peu spécial parce qu'on a essayé de faire un enduro, c'est-à-dire que c'était une compétition de vélo, mais avec une configuration de rallye. Donc c'était une toute première aussi, on a
Wow.
essayé de le faire et on a bien réussi. Les sponsors ont suivi, on avait plein de compétiteurs. Voilà, c'était vraiment convivial, c'était amical et puis on a pu transmettre un peu ce qu'on savait, nos expériences en termes d'organisation d'événements, de gestion de courses. On a pu transmettre ça à une autre fédération qui était la fédération du vélo. Donc voilà, c'était vraiment ce transfert de connaissances-là, cet échange, parce qu'on a aussi beaucoup appris d'eux, hein. Le monde du sport automobile en soi, c'est vraiment un monde à part, je dirais. Mais quand on va dans une autre fédération comme la fédération du cyclisme, par exemple, ben on voit vraiment des personnes très humbles, très sportives, qui aiment le sport pour le sport. Et on a vraiment appris de leur humilité. Et voilà, c'est vraiment cet échange-là qui était très enrichissant.
D'accord. Donc toi, tu disais que WeMove Madagascar, donc tu y es toujours, mais aujourd'hui tu es aux États-Unis. Mais aujourd'hui, WeMove Madagascar, ça implique combien de personnes?
Alors, ce qui est un peu spécial avec WeMove Madagascar, c'est que quand on l'a créé, je l'ai créé moi avec 2 personnes aussi folles que moi qui sont restées à Madagascar. Elles sont restées à Madagascar, mais on est toujours en contact. Alors, l'esprit de WeMove Madagascar, c'est pas, voilà, c'est mon image, c'est de ne jamais forcer les gens. C'est vraiment au feeling. Donc, si on a un projet, il y aura des gens qui vont travailler sur nous sur ce projet-là. Après, on aura d'autres projets. Ce seront peut-être pas ces mêmes personnes-là qui seront impliquées dans ces autres projets. Ce seront d'autres personnes. Et il y a vraiment pas de j'ai vraiment oublié le mot en français, de commitment. Donc, on peut, voilà, on a, on peut, on,
D'obligation.
voilà, on n'est pas obligé on n'a pas d'adhésion, on n'a pas voilà, on ne paie rien pour être membre de WeMove Madagascar. On a juste besoin de la conviction des gens, de la volonté de faire quelque chose et voilà, de participer à un projet en particulier et quand ce projet-là prendra fin et jusqu'à ce que ça se renouvelle, la personne peut s'arrêter là et nous, on va créer encore d'autres projets, on va soutenir d'autres projets en cours et peut-être que ça impliquera d'autres personnes. Voilà. Donc, techniquement, on est toujours 3, dont 2 restés à Madagascar et moi
D'accord.
dans We Move Madagascar.
C'est bien, c'est bien. Du coup, j'avais une question parce que tu vois, en tout cas de l'extérieur, moi, je n'ai pas vécu à Mada, mais j'ai beaucoup de liens avec Madagascar via les parents, voilà, les réseaux aussi. On voit de plus en plus d'associations, de mouvements autour de Madagascar, de choses qui se créent à Madagascar. Pourtant, on entend toujours qu'il y a autant de difficultés, etc. Toi, quel est ton regard un peu sur ce nombre d'associations qui se créent, ces projets qui en fait qui naissent de partout, mais qui finalement il y en a plein qui fleurissent pas et qui s'arrêtent en cours de chemin. Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi avec WeMove Madagascar et surtout quel est ton regard là-dessus?
Oui, c'est tout à fait vrai. Je dirais que la raison pour laquelle il y a autant de mouvements, d'associations, de choses, enfin, qui se créent à Madagascar, c'est qu'il y a la volonté. Il y a la volonté de faire, il y a la volonté de changer, il y a la volonté d'emmener quelque chose pour le pays, pour Madagascar. Maintenant, on n'a pas toujours le savoir-faire, je dirais. Parce qu'entre la volonté et vraiment mettre en action nos rêves, nos ambitions, il y a quand même du travail, il y a d'expérience, il y a des expériences, il y a des relations à établir. Et je pense que c'est ce qui manque. Ça, c'est d'une chose. Et deuxième chose que j'ai vraiment vécue aussi à Madagascar, c'est cette tendance à cette compétition. entre les entités. Voilà, j'ai l'impression qu'on crée une association à Madagascar juste pour être vue. Peut-être que j'ai tort, mais c'est ce que j'ai vécu quand j'ai été là-bas. Donc, si on a un projet, c'est vraiment pour faire mieux qu'un tel. C'est pas, voilà, c'est vraiment pour, voilà, cette image-là sur les réseaux, c'est, voilà, et après, c'est comme une bougie. Après, ça s'éteint et c'est fini. C'est pour ça que moi, en créant We Move Madagascar, j'ai décidé de ne pas faire un projet pour moi, en tant que We Move Madagascar. Je voulais être un véhicule pour des projets déjà existants et qui a besoin peut-être de mon savoir-faire, de mon leadership, de mes connaissances, de mon network, de voilà, des communications que je peux faire pour promouvoir leurs actions à eux et pour que la retombée soit leur revienne. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est vraiment ce que je veux pour ces personnes avec qui je travaille. C'est vraiment d'être un véhicule pour eux, de faire le travail pour eux et voilà. Parce que We Move Madagascar, c'est pas mon travail à moi, c'est vraiment mon petit bébé, ma passion, c'est quelque chose que je fais dans mes heures perdues, voilà.
Tu as beaucoup d'heures perdues, alors du coup, sans...
Non, je me crée des heures perdues.
C'est
en
ça,
fait,
c'est ça. Voilà. Il faut le dire, parce qu'on a tous du temps, mais il faut savoir le trouver
voilà.
dans notre quotidien. Et du coup, voilà. Pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, tu disais un peu qu'il y avait cette compétition, au final, entre les associations malgaches. Et moi, ma grande question, c'est qu'on parle toujours pourtant du Fiavanan, qui est quand même un des pilier de la culture malgache, qui est complètement paradoxal à ça.
Voilà. Il y a une façon de dire ici aux États-Unis qui dit walk the talk. So ça veut dire il faut faire. On parle toujours de fiavan, mais ça c'est resté un mot. Voilà. Pour moi, j'ai vécu 40 ans à Madagascar, j'ai toujours entendu fiavan, mais honnêtement, je l'ai jamais vraiment senti, surtout en dehors du cercle familial, hein, mais surtout quand on a un grand projet, quand on veut faire une réalisation, moi, je t'assure, c'est très difficile d'avoir le soutien des gens. C'est plutôt les gens se posent la question de pourquoi elle fait ça, comment elle fait. Nous aussi, on peut faire mieux. C'est tout le temps comme ça. Et je suis sûre qu'il y aura des personnes qui vont s'identifier à cela et qui se disent, c'est pour ça que les Malgaches, maintenant, ils aiment bien garder les choses en secret. Mais si tu gardes les choses en secret, tu vas nulle part. Mais
exactement,
voilà,
tu n'avances voilà, pas mais, non plus.
Exactement, mais c'est devenu notre culture à nous. C'est vrai, hein, dans les familles malgaches, on a toujours tendance à dire à nos enfants, nos parents ont tendance à nous dire, ne parle pas de tes projets aux gens. Il faut parler pour avoir. Comment est-ce qu'on va réaliser les projets si on n'en parle pas? Comment est-ce que les gens vont penser qu'on est vraiment convaincu de ce qu'on fait si on ne peut pas en parler? Voilà, donc c'est très paradoxal. Mais d'une part, je peux les comprendre parce que quand je regarde, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a des créateurs qui se plaignent parce que à la minute où leurs produits sortent, voilà, les répliques aussi sortent, les copies, les contrefaçons. Donc c'est vraiment tout un environnement, toute une culture à revoir, je dirais, mais la volonté est là, la bonne volonté est là, et il faut juste se donner la main. Et voilà, We Move Madagascar, c'est vraiment donner la main aux gens qui ont besoin d'aide, de soutien dans leur projet. Voilà. Et ce n'est pas forcément financier, hein. C'est vraiment faire le travail à la place des gens. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, j'avais une question pour rebondir un peu sur l'idée que les parents, en tout cas, transmettent cette idée de ne pas dire autour de soi à Madagascar. Toi, par exemple, aujourd'hui, tu es aux États-Unis, donc peut-être que c'est différent, mais tu nous en parleras après parce qu'il y a aussi une grosse diaspora de malgaches aux États-Unis. Donc, peut-être que tu en as rencontré aussi, mais peut-être que c'est totalement différent. Mais à Madagascar même, afaka tout si kamten ka sangam dam sen yu tion saku afaka we mason sen tenin no reet fa janu an etak san ni remanje mten we azam tenin no fa manana projet so de alen yul la so misul la mano kopi so misul e no zan mera kam sanako aona natu no we plus ouvert zan senan de plus ouvert is we msara ni faizan.
Ia, ne nazany amiko ny fahaizanao a saraina dia mitombo. Ny fahaizana ihany no zavatra saraina dia mitombo. Dia ny zanako ny ampianariko an'izay hoe aiza mba mahiatra mihitsy mizara fahaizana manoro olona satria ianao koa nisy nampianatra izay vao nahay. Dia izay no teneniko an'ny zanako moa, izaho koa izao foana ny filozofiako hoe rehefa tena ianao ny tompony hevitra anankiray a dia ianao no manao ny réalisation rehetra ahafahanao mahavita ny projet anao a, dia afaka manao kopi izay tianao kopi fa ianao ihany ny tena mahafantatra ny tena nahatongavana tao. Dia à un certain moment zany tsy maintsy ho fanina ilay olona manao kopi satria tsy manana an'ilay idée original izy. Ka raha ohatra zany ka tena hoe kopi malhonnête ny tian'ilay olona tao a, dia tsy maintsy a ho bloqué izy quelque part any amina niveau quelque part izy tsy maintsy hita foana hoe ny antona tetsy zareo fa tsy tafavoaka tsony satria tsy anazy lay idée. Dia izay no mahatonga anao hoe raha tena mahay ianao tena mahay ianao a, ny olona tena mahay a tsy mba kahiatra mihitsy mizara ny fahaizany. Dia nazaha zao ne mba nifanena tamin'olona tena mahay dia nampianatra na zavatra be da be izay aho vao mba nahay an'izay zavatra haiko ohatra izao koa hoe dia ohatr'izay foana zany ny ataoko. Dia za zany tsy mba nitaizany zanako mihitsy hoe miafimiafina fa rehefa misy olona mangataka fanampinana manao échange dia mazoto foana, ary raha ohatra ny ka hitanao ny zanako anankiray manana page mihitsy izy a ao amin'ny Facebook ao Yael ny anarany, dia manao partage izy, mampianatra ny olona, motive olona, dia tena manao partage izy. Ny zanako sasany manao fa le zanako zokiny zany ny tena, le zokiny indrindra ny tena manana followers izy ao. Fa ny sasany mipartage amin'ny fiainany izy andavanandro amin'ny page Facebook ny anazy rery amin'ny amiany sy ny connaissance. Fa izay mihitsy ny itezako an'ny zanako hoe zavatra ohatra an'izany ahafahanareo mampianatra, dia tsy maintsy misy olona koa manantona anareo mampianatra anareo zavatra. Dia izay ny amin'ny filozofia itezako an'zareo.
Nefa ianao miteneny zany rery zany zany dia ohatrany hoe tsy misy fihavanana tsony zany anedako, raha ataoko resume kely an hoe tsy misy fihavanana tsony, nefa ianao mbola manana an'la fihavanana zany, mbola manana an'la mentalité, dia inona zany moteur anao hoe fa maninona ianao mbola manana an'la izy nefa hitanao hoe ny olona rehetra okaiky na lavitra be anao tsy manana an'la izy tsony? Tsy matahotra ve ianao ny olona tsy hoe meme aminao fa ohatrany hoe mijery anao hoe jereviko le sandy mbola ohatrany hoe mbola mafilo hoe manao an'la izy nefa ny olona rehetra tsy mandeha miaraka aminao tsony?
Rehefa manao zavatra zany ianao tsy voatery indrindra hoe raha ianao no manao an'la zavatra dia tsy voatery ianao miankina amin'ny olona. Dia ny anahy koa ny tena zavatra mba zaraiko matetika rehefa miresaka amin'ny olona dia izao hoe aiza bazena amin'ny opinion an'ny olona ny zavatra ataonao rehefa zavatra hitanao fa zavatra mety ny ataonao. Zany hoe mety zavatra mety ianao rehetra sisa manao an'iny, tsy maninona rehefa ianao alaiza manao an'azy sy mitondra zavatra tsara ho anao ilay izy. Fa ilay izy koa loha tsy hoe anao an'ilay izy fotsiny mba ho hitan'ny olona manao an'ilay izy dia anao defi eo nefa tsy mitondra ninina anahy mihitsy ilay izy. Fa hitanao hoe mahafinaritra anahy manao an'ilay izy a, tiako manao an'ilay izy a, dia misy olona ny anahy koa moa zany ny succès ny anahy a tsy mba mesureko amin'ny isan'ny olona manaraka anahy na tia anahy na tsy tia anahy. Fa ny anahy ny succès a dia tena mesurer koa amin'ny résultat tangible ho indraindray mety olona ray ihany no touché amin'ilay zavatra ataoko iny. Fa tena misy olona tena miantso anahy mihitsy dia miteny hoe tena misaotra betsaka fa tena nanampy anay ilay zavatra nataonao iny. Dia izay tena ampy anahy, na dia niresaka tamin'ny olona milina ary a dia ray ihany nanao an'izay retour izay dia tena faly ahako. Dia ohatr'izay zany ozy ako oke ny touché olona ray nanampy olona anankiray zany iny action ako iny dia faly ahako ohatr'izay zany ny ataoko. Dia le hoe notion na fihavanana any Madagasikara le izy tsy hoe nanjavona, le izy za mino a satria 40 ans an-tany niaina tao anatin'io société malagasy io a tsy nanjavona mihitsy ny fihavanana. Tena teneniko anao tena mifankatia ny olona, tena mifanampy ny olona, fa le rehefa Rehefa mahavita zavatra fotsiny ianao a, no betsaka ny lasa olona manenjika anao. E d'ailleurs tsy any Madagasikara ihany zany fa aminah aty ivelany dia misy an'izany. Fa ianao fotsiny zany a, raha ohatrany ianao ka tsy mijoro tsara amin'ny hevitrao dia mora hoe indrindra indrindra moa zao amin'ity réseaux sociaux ity tena vetivety kely dia anaovan'io la buzz ianao. Dia manimba mental ireny, raha fragile mental anao, misy olona tena mamono tena mihitsy satria tena manimba olona ny buzz. Dia matahotra an'ireny ny olona, dia lasa izay mahatonga ny olona ohatrany hoe lasa miraviravy tanana, lasa ohatrany hoe tsisy fihavanana satria pour rien, na zavatra mety na tsy mety nataonao dia foron'ny olona eny amin'ny réseaux sociaux ianao dia simba eo ny réputation anao. Dia zavatra ohatran'izany zany matetika koa manimba le fihavanana, le firaisan-kina any Madagasikara. Fa tsy hoe korony hoe tsy nisy tsony le izy fa lasa mitandrina fotsiny ny olona. Fa ohatra anahy manokana za tsy matahotra loatra an'ireny a satria ny olona tsy maintsy mitantara zavatra momba anao ny olona rehefa izay ny tiany. Voilà, tu peux pas, on peut pas arrêter les gens. Fa tsy maintsy hoe voilà, tsy maintsy hoe rehefa te hiteny izy a dia miteny foana na manao zavatra ianao na tsy manao zavatra. Dia izay koa ny mampatonga anahy miteny amin'ny olona hoe tantarao ny fiainanao, tantarao na dia amin'ny tenanao ihany ary, tantarao ny fiainanao amin'ny tenanao dia mba hitanao ny bon côté amin'ny fiainanao. Fa rehefa tsy tantarainao ny fiainanao dia ny olona ny tantara anazy amin'ny versionany, dia nefa ny iny a ampideprime anao iny. Dia izay ny devanceko dia tantaraiko ny anahy.
Ka marina izany. Dia justement, on va re-switcher en français. Mais donc aujourd'hui, tu vis aux États-Unis, à Washington. Est-ce que vous êtes en contact avec des malgaches de là-bas? Est-ce que vous en avez rencontré beaucoup? Et est-ce que tu peux nous décrire un peu les mentalités? Est-ce que tu as l'impression de retrouver un peu les mentalités de malgaches de Madagascar ou c'est totalement différent?
Oui, j'ai rencontré beaucoup de malgaches. Je fais d'ailleurs partie intégrante du diaspora. J'ai rencontré moins de malgaches à New York pour la plus simple raison qu'on était là-bas pendant la pandémie. Donc, on voyait moins de malgaches et des membres de la diaspora. Mais je suis aussi en contact avec les malgaches de New York. Mais à Washington, j'ai eu le temps de connaître, de faire connaissance avec les membres de la diaspora malgache. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu recréer We Move Madagascar, parce que je connaissais plus de monde à Washington. Et puis, il y avait ces gens qui voulaient bien faire partie de cette aventure. En parlant de la mentalité, je dirais que la vie à l'extérieur a fait que les gens sont plus ouverts. Voilà ce que je dirais. Mais on reste toujours des malgaches. Voilà, donc je retrouve des malgaches ici avec la façon de penser malgache, la façon de parler en malgache, la philosophie malgache. Mais ces gens-là, je dirais, sont plus ouverts parce que ils ont déjà vécu plus longtemps à l'extérieur.
Et quand tu dis plus ouvert, ça veut dire quoi plus ouvert?
Ils ont une optique un peu plus différente. Voilà, l'exemple que je dis toujours, c'est que quand on est à Madagascar, quand on n'est jamais sorti de Madagascar, on pense qu'on est comme un gros poisson dans une piscine. Voilà, on pense avoir déjà tout connu, voilà, on sait tout. Et quand on sort, c'est là qu'on réalise qu'on est un tout petit poisson dans un grand océan. Et donc, c'est de réaliser cela qui fait en sorte que les gens sont, je dirais, plus humbles. Et au moins, les gens que je connais ici, ils ont aussi leur challenge, hein, parce qu'habiter à l'étranger, c'est pas aussi des vacances. Donc, ils ont aussi leur propre challenge et voilà, ils s'occupent. Ici, on n'a pas trop le temps, je dirais pas trop le temps de s'occuper des affaires des autres. Voilà.
D'accord. Et justement, avant de terminer cette interview, je voulais avoir avec je voulais voir avec toi ton point de vue, un peu ton sentiment de comment tu te sens aux États-Unis. Est-ce que tu t'y vois y vivre très longtemps? Est-ce que Madagascar te manque et est-ce que tu te vois retourner à Madagascar?
Oui, premièrement, la raison pour laquelle on est parti, c'est vraiment pour les enfants. Donc, tant que les enfants ne sont pas encore totalement indépendants, on est ici. Je travaille ici, mon mari travaille ici maintenant. Donc, on doit faire nos travaux ici. Si on revient à Madagascar, ce sera pour les vacances. Maintenant, on ne dit pas non au retour à Madagascar parce que jusqu'à maintenant, après avoir vécu ici pendant 4 ans, on ne se voit pas encore vieillir aux États-Unis parce que la vie ici est très mouvementée. Donc, on a besoin de notre mouramour, hein, au pays. Mais ça, ce sera peut-être à la période de la retraite. Mais pour le moment, on travaille ici, nos enfants sont tous ici, donc on doit être là pour eux. On n'est pas encore totalement sorti de cette transition-là, donc on est toujours en train de vivre cette transition-là. Donc on est toujours ici, mais on ne dit pas non au fait de revenir à Madagascar et vivre à Madagascar un jour.
Et vous continuez à garder cette culture malgache à la maison, à parler malgache, cuisiner malgache?
Oui, on a gardé vraiment notre façon de vivre à Madagascar. On mange les mêmes choses, on cuisine les mêmes choses, on parle en malgache parce que entre nous, les 4 enfants, mon mari et moi, le lien familial maintenant, parce qu'on a plus de les enfants sont éparpillés dans différents États. Il y a que le petit qui est avec nous. Donc pour nous, le lien familial, c'est la langue. Donc, on ne parle qu'en malgache entre nous. Et parce que les enfants, là où ils sont, ils n'ont pas l'occasion de parler en malgache parce qu'ils n'ont pas d'amis malgaches, ils n'ont pas de diaspora là où ils sont. Donc, ils parlent pas du tout malgache là où ils sont. Donc, avec nous, ils parlent en malgache et le petit, il parle en malgache avec nous. Et c'est vraiment notre seul lien avec le pays pour le moment. C'est entre nous, c'est la langue.
D'accord, mais vous avez totalement raison, et c'est important de continuer à parler malgache. Récemment, j'ai fait un épisode avec Peyton, qui est le fondateur de la chaîne YouTube Vazam Tenkas, et justement, on a parlé de cette thématique parce que lui, c'est un Vaza, du coup, qui parle couramment malgache. Et donc, on s'est dit que forcément, si un Vaza pouvait le faire, des Gas pouvaient le faire, et que c'était aussi aux parents de transmettre cette langue. Donc, c'est pour ça que c'est une question qui revient souvent, que je pose régulièrement, parce qu'on voit aussi que quand tu pars à l'étranger, quand tu quittes Madagascar, il y en a beaucoup qui ne parlent plus le malgache à leurs enfants, et du coup, ça se perd.
Voilà, mais je voulais rebondir un peu sur ça parce que je suis pas, je faisais partie de ces personnes qui, je dirais honnêtement, donnaient tort aux gens aux malgaches, aux parents malgaches qui ne parlaient pas le malgache avec leurs enfants, qu'ils soient à Madagascar ou à l'étranger, ma sœur y compris, parce que les enfants de ma sœur ne parlaient pas malgache avant, ils parlaient que le français. Et je donnais toujours tort à ma sœur. J'ai dit, il faut parler en malgache, les enfants, ils sont en Madagascar, comment se fait-il qu'ils ne parlent pas en malgache? Mais maintenant que je vis aux États-Unis, je comprends que ce n'est pas facile. Il faut le vivre pour le comprendre. Ce n'est pas facile parce que même si on parle en malgache entre nous, ben, je n'ai pas ce problème-là parce que moi, j'ai quitté Madagascar, mes enfants étaient déjà grands. Mais par exemple, mon tout dernier, quand on a quitté Madagascar, il avait 15 ans. Il parlait malgache couramment comme ses aînés. Mais lui, il a fait une bonne partie de sa scolarité aux États-Unis. Donc, il parle plus l'anglais. Tous les jours, il parle plus l'anglais. Il ne parle le malgache qu'avec nous. Alors, ce que j'ai remarqué avec lui, c'est que il parle toujours malgache. Il parle, enfin, il sait dire ça, il comprend. Mais il peut plus soutenir vraiment une conversation en malgache parce qu'il commence à perdre les mots. Et si ce sont des mots que moi ou mon mari n'utilisons pas tous les jours, il n'y a aucun moyen pour lui de connaître ces mots ou de se souvenir ces mots. Donc, au bout de 4 ans, on a vraiment remarqué que cet enfant-là perd beaucoup les mots. Donc, on essaie vraiment de lui faire lire les livres, voilà. Mais c'est un autre challenge. Donc, maintenant, je comprends parce que maintenant, je suis arrivée à un moment où, si je veux vraiment lui faire comprendre quelque chose, je lui parle en anglais. Et c'est triste, mais c'est comme ça parce que des fois, je n'ai pas le temps de lui expliquer tout en malgache pour qu'il me regarde avec un œil.
Voilà.
Et mais je dois tout réécouter.
C'est ça le problème, c'est je l'ai, c'est pas, j'ai pas le temps. Et là, l'autre, allô, à toi, si tu es une vaza, à toi, si tu es une française, à toi, si tu es une église. Mais en fait, ce que je me dis toujours, c'est ok, à toi, si tu es une française, Antoine, les 20% les avarsan. Demain, là, c'est 50%. T'as vu 80%, t'es là, c'est 100% à vu tes fonds d'iPhone. T'as vu ton gars les as, hein? T'es le poulton na maieri.
C'est le ten amarant.
T'as vu faire les 10-6 années. Ça, c'est t'es là qu'à t'année d'ag, ça, t'es là qu'à t'année France, n'est-ce pas, t'année France. T'es une case, tu es parfait, hein? Ça, c'est un peu parfait, femme, même t'es une case, ya. Ça, c'est une liaison. C'est chez vous, oui. Ratsmissul l'am ten gas, ni narak, sambat. Tsmissoué, surafa gas, zan le oule. Donc, gas, ya. Te vous avez mis l'am ten gas, ça c'est chez vous, ni arena tic.
T'es nommé à l'ouse.
Si que ratsmana zan le i, tu es mana zafa.
Ou tu n'as pas de saine.
C'est, de la safir le i.
T'es nommé à l'ouse. T'es nommé à l'ouse. Ou tu n'as pas de saine. Ça c'est ce manan, c'est le problème, c'est mit sa tia. Tu minois, oui, tu as été en casse, c'est possible, mais ça ne dit pas, ça défait les pésaro, nous n'y allons pas à Madagascar, nous n'y en casse, fonce, on te rané. Et tu as dit une fois, c'est foutu, après 5 ans, gambania, les anneaux farala, de la sa, limité, foutu, ça va être avec tes mains, ça même, mais ça va être, ou je vais attendre interview en t'en casse, Isania. Pepe da peni idea meto mila uman zan vo fatan sa chim mis mo zan tsfantan mis mo zan tsapesaigny de la sa tsfantan de voilà mis toni zona antanana aona mo zan napesa ko tombotso io ame chechatko rovina mo zan tsa sti marina ny ampiasa an'izay mo e tombotso zay de neva tena be da be zan mo zan zany tsy ampesaina mis aty satria tsy miresaka momba zan zay aty de mitady moyen hafa, effectivement, mitady moyen hafa mihitsy zao ampianarana anazy miteny gasy aminazy amina mo hafa. Fa tsy le mo fampiasaina isan'andro tsony mba tsy anadinony anazy, de teneniko mihitsy ny zokiny hoe mba resadreso mo hafa izy rehefa miantso anareo amin'ny telefona fa sao de adiny le mo. Ohatr'izay fa en 4 ans zany taia de nandalo taty mamanay nanao vakansa teo, mamanay zany tsy nahita anazy nandritra ny telo taona. De tena niteny mihitsy mamanay hoe tena very ny teny gasy n'ity zasy ity. De eo tena mirealize hoe tsy maintsy manao effort zany satria tena izy zany no izy zany lasa tratra farany satria izy tena teo amin'le seuil an'le limite il avait 15 ans. Donc il a eu le temps de mianatra an'le teny iny grandira niaraka tamin'ny ankizy amerikana taty de tena lasa enao parent zany mila manao an'le effort zao mba tsy ho adinyle izy. Ya fa mbola miteny tsara daholo loza reo e.
Oui, ka zay ange ny important hoe mbola tiny zay le izy, zay le tena hoe le basan'le izy, tsy hoe ohatrany hoe manao an'le miteny gasy izy de lasa izy miteny hoe le hoa le miteny gasy aro miteny anglisy. Raha mbola tiny le izy de tsara zay.
Ya, mbola miteny daholo zareo sady ny dadany tsy teny afa tsy teny gasy amin'ny mihitsy zany afaka manao soa rehefa le hoa de miteny amin'ny teny afa ny dadany tsy maintsy miteny gasy de tsy maintsy miteny gasy daholo zareo fa tena marina mihitsy loza ny tenenao zany e. Zany mahafinaritra na manao échange ohatran'izao satria na zaho koa zao de mianatra zavatra vaovao amin'izany zavatra tenenao zany fa mitondra réflexion vaovao anahy.
Oui, c'est l'idée. D'accord. Ben, merci beaucoup, Sandy. Pour
merci.
Terminer, je vais te poser 5 petites questions autour de Madagascar que je pose toujours à mes invités. Est-ce que tu es prête?
Ok.
Quel est ton lieu préféré à Madagascar?
Mbouibao.
C'est où?
C'est sur la route de l'aéroport.
D'accord.
À Tana.
Et qu'est-ce
c'est là qu'on
de...
a vécu.
D'accord.
C'est là, voilà, c'est là qu'on a vécu pendant 20 ans.
D'accord. Donc, c'est une ville.
Voilà.
D'accord, super. Quel est ton plat malgache favori?
J'ai pas de plat préféré parce que moi je n'aime pas manger.
Ah bon?
Oui. Donc pour moi les aliments ont tous le même goût. Mais vraiment pour répondre à ta question, je dirais enombrit.
Ah, ok. Il y a la camvade.
Voilà, c'est la sarre.
La sarkel, ok. Ton plus beau souvenir à Madagascar?
C'est d'avoir eu mes quatre enfants.
Imbattable.
Imbattable. Parce que juste pour l'histoire, c'est que j'ai une scoliose dorsale et lombaire très sévère. Et à 16 ans, on m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Voilà.
Ah oui, d'accord, effectivement. D'accord. Un mot ou une expression qui pour toi décrit beaucoup Madagascar?
Mouramour.
Ce qui te manque aux États-Unis.
Oui, ça me manque.
Et pour terminer, est-ce que tu as un mot, un message à passer à l'audience de Malabar? Ça peut être en français, ça peut être en anglais, ça peut être en malgache, comme tu veux.
Oui. Prenez un stylo, écrivez votre histoire et ne laissez jamais personne d'autre raconter votre histoire à votre place.
Ça, c'est beau. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sindhi. Merci pour ce partage, c'était vraiment un très bel échange. Et,
merci à
je
toi.
Je te souhaite beaucoup de réussite et de toute façon, on reste en contact.
Ok, merci beaucoup. Au revoir, merci d'avoir écouté.
L'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Malabar, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une aventure à travers Madagascar. Ce podcast, c'est également le vôtre. Alors si vous souhaitez partager votre histoire ou si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être entendu, n'hésitez pas à nous contacter sur malabar.fr ou sur LinkedIn, Sambach Rapefarnouch. Ensemble, continuons à explorer les joyaux cachés de Madagascar. Amanarakanjeyo, velum.